5. On va prier et après ça, on va lire le texte de ces jours-ci. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que tu as mis devant nous pour que nous puissions étudier ta parole, prendre cette pause en ce début de journée pour sonder ta face, pour sonder tes écritures et pour être instruit et nourri. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère qui se sont joints à nous ce matin, mais aussi Seigneur sur tous ceux qui le feront après coup en différé. Que ta grâce soit accordée Seigneur à tout un chacun et que tu nous bénisses Seigneur par ta provision et par ta parole. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le texte de cette semaine. Si je suis... Il y a Nima qui fait des siennes là actuellement. Donc, je lis pour vous dans Jacques au chapitre 5, le verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je répète, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. La section que nous étudions aujourd'hui nous dit, à propos de celui qui ramène une âme, qu'il sache que celui-ci ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré. Je répète, qu'il sache que celui-ci ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré. Trois termes importants ce matin. Certains que vous connaissez déjà parce qu'on les a étudiés dans les jours précédents. Epistrepho, qui veut dire ramener. E-P-I-S-T-H-R-E-P-H-O, je répète. E-P-I-S-T-H-R-E-P-H-O, epistrepho, qui veut dire ramener, qui veut dire donc se tourner ou être ramené par quelqu'un vers un objectif. Donc c'est, comme on le voyait hier, ça a deux sens. Il y a le sens, mon effort personnel à me tourner vers Dieu, et aussi l'appui, le soutien, l'aide et l'effort de mon prochain qui m'aide à me retourner vers Christ. Mais les trois termes les plus importants pour nous aujourd'hui, un pécheur sur la voie où il s'était égaré. Donc pécheur, amartolo, H-A-M-A-R-T-O-L-O, je répète, pécheur, amartolo, H-A-M-A-R-T-O-L-O, la voie, donc le chemin, hodos, H-O-D-O-S, H-O-D-O-S, et s'égarer, planer, P-L-A-N-E, je répète, P-L-A-N-E. Alors, une chose très importante. Hier, on a parlé de ceux qui s'éloignaient et de celui qui ramenait l'éloigné vers Christ. Et ce n'est pas péjorativement que je parle de l'éloigné, c'est simplement pour faire une distinction entre celui qui s'éloigne et celui qui ramène. Hier, donc, on parlait, mais j'ai l'impression que, comme moi, Jacques veut que les choses soient très claires, même si les choses peuvent être douloureuses. Jacques va dire ici que celui qui s'est éloigné est un pécheur. Il va dire qu'il y a une grâce particulière pour celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré. Ça veut donc dire que celui qui s'éloigne de Dieu, Jacques est très très clair, il a le statut de pécheur. Et ça, c'est une douloureuse difficulté que nous avons régulièrement lorsque nous parlons d'un frère qui s'est éloigné. Un frère qui s'est éloigné, oui, c'est un frère qui s'est éloigné. mais dans le plus pur des sens et dans le plus clair de la terminologie, un frère qui s'est éloigné, c'est un pécheur. Il revient à ce statut de pécheur. Oui, il a connu Christ, oui, il a connu le Seigneur, mais malheureusement et de façon terrible, il est rétrogradé à son état initial de pécheur. Alors, il est important de se dire les vraies choses. Et je sais, on a tous un ami, un parent, un enfant, un collègue, quelqu'un qui nous est cher, qui marchait dans les voies de Dieu et qui s'en est éloigné. Et le danger de ne pas dire les choses clairement, le danger de ne pas appeler les choses telles que la Bible les appelle, c'est que si pour moi c'est tout simplement un frère qui s'est éloigné, ben un frère qui s'est éloigné, ça reste un frère. Un frère qui s'est éloigné, si c'est un frère, ça veut dire qu'il est encore sauvé. Alors qu'ici, la Bible est très claire. Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré, et demain on verra la suite quand on nous dit qu'il sauve une âme. Ça veut dire que le statut de celui qui s'est éloigné, il est de nouveau condamné, de nouveau condamnable, et de nouveau en direction de la condamnation éternelle et de la vie sans Christ. Alors, je ne suis pas là pour attrister qui que ce soit, mais il nous faut être clair dans ce que la parole de Dieu nous dit. Et parfois, si on a cette idée un peu idéaliste, dirons-nous, comme quoi celui qui s'est éloigné est encore et toujours un frère, ben peut-être qu'on ne fournira pas l'effort nécessaire parce qu'on ne prend pas conscience pleinement du danger dans lequel il est. Un pécheur, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Un pécheur, c'est quelqu'un qui chemine tranquillement, mais sûrement, vers l'enfer, vers la condamnation éternelle. Alors, si moi, je regarde mon frère qui s'est éloigné, et je ne suis pas conscientisé de son statut devant Dieu, du regard que Dieu porte sur lui, comme étant de nouveau pécheur, de nouveau condamné, de nouveau en direction de l'enfer, ben je pourrais ne pas faire l'effort nécessaire pour le réchapper et pour le ramener dans le chemin du Seigneur. Alors Paul est très clair, Jacques est très clair, que nous sachions que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, lorsque quelqu'un s'est égaré, il redevient avec un statut de pécheur. Que veut dire pécheur? Amartolo. Trois connotations différentes, parallèles, mais différentes malgré tout, que le terme peut avoir. Premièrement, pécheur veut dire celui qui est enchaîné au péché. Celui qui est enchaîné au péché. Ça veut dire que la liberté que ce croyant avait en venant en Christ, ben il a réenchaîné ses pieds avec le péché. Ses mains sont réenchaînées au péché. Ses yeux sont réenchaînés au péché. Deuxième sens, c'est quelqu'un qui est taché par le vice. Donc, lorsque je m'éloigne de Dieu, même dans mes passions, même dans mes pulsions, même dans mes sentiments, je vais retourner à ce qui était autrefois. Et la Bible va être très très claire. La Bible nous dit que celui qui a connu la grâce, celui qui a connu la justice de Dieu et qui s'en éloigne, son état va être pire que celui qu'il avait avant de connaître initialement Dieu. Donc, toutes mes passions qui étaient mauvaises auparavant, lorsque je me retire de Dieu, lorsque je m'éloigne de Dieu, je retourne dans une condition pire encore qu'autrefois. Donc, taché par le vice, je vais avoir une propension au vice, une propension au péché. Et quand je parle de vice ici, je n'ai pas simplement la pensée très contemporaine du vice comme étant un abus d'alcool, un abus de drogue, un abus au niveau des limites sexuelle que Dieu donne. Vice, c'est tout simplement cette propension à ce qui n'est pas bon. Lorsque je m'éloigne de Dieu, je reviens à une propension, à une disposition, à une facilité envers ce qui n'est pas bien. Et enfin, taché par le crime. Donc le péché enchaîné au péché, taché par le vice et taché par le crime. Là, vous allez me dire, mais ce n'est pas tous les pécheurs qui enfreignent la loi. Ce n'est pas tous les pécheurs qui enfreignent la loi de César. Ce n'est pas tous les pécheurs, ce ne sont pas tous les pécheurs qui enfreignent les lois de ce monde. Mais ce sont tous les pécheurs qui enfreignent effectivement les lois de Dieu. Donc, par ce fait, nous sommes des criminels devant Dieu lorsque nous péchons. Lorsque nous péchons, nous enfreignons les lois divines et par conséquent, selon les lois divines, je suis un criminel. Donc, lorsque je m'éloigne de Dieu, je vais avoir, non seulement je reprends mon statut d'esclave du péché, non seulement mes désirs vont se porter vers ce qui n'est pas bien, et enfin, j'enfreins les règles, les lois de Dieu, et je suis considéré comme un criminel. Et un criminel, si je suis effectivement attaché par le crime se paye, la justice se paye. Et je suis donc, si je n'accepte pas Christ, si je ne reviens pas à Christ, si je ne demande pas que le sang de Christ me purifie de nouveau, je demeure coupable face à mes iniquités et à mes péchés. Mais voyons ce que Jacques dit. Il nous dit, « Celui qui ramènera le pécheur de la voie où il s'était égaré, de la voie où il s'était égaré, du chemin où il s'est égaré. » La plupart du temps, le départ des voies de Dieu vers les nôtres et vers celles qui nous mènent à la perdition, cette transition, la plupart du temps, se fait de façon graduelle. Ça peut, oui, être un peu plus rapide chez certains que chez d'autres, mais en général, c'est pas une bifurcation spontanée, instantanée. C'est quelque chose qui, petit à petit, s'immisce en nous et on finit par se retrouver bien loin de Dieu. Donc, c'est une voie dans laquelle on se dévie du chemin qu'on suivait, dans lequel on se détourne de la direction, de l'objectif, de la destination qui était la nôtre, et dans lequel on finit par se tromper, par se fourvoyer. Et ça, le terme planer, on l'avait déjà vu sous d'autres déclinaisons à travers les dernières journées. Et ça voulait dire donc dévier, se détourner, se fourvoyer, donc se tromper soi-même, chuter, errer et divaguer, avoir du sens et perdre ce sens. Voilà comment la voie peut nous égarer. Voilà comment notre chemin peut nous égarer. Premièrement, lorsque la destination n'est plus la bonne. Je suis un objectif, je suis une destination, mais si je bifurque de destination, ben au lieu de me rendre à Montréal, je me rends à Québec. Expression très typique d'ici. Mais si je n'ai pas le bon point géographique où je dois aller, je vais dévier de ma voie. Donc la destination, quelle est-elle? Quel est l'objectif de ta vie? Quand on parle de destination, on parle d'objectif pour me rendre à un endroit. Donc quel est cet objectif? Est-ce que cet objectif reste et demeure Dieu? Et là, je sais que plusieurs vont me dire, mais pasteur, oui, je veux servir Dieu, mais j'ai comme priorité dans ma vie mes enfants, j'ai comme priorité dans ma vie mon foyer, j'ai ces responsabilités-là. Laisse-moi te dire que ta première et toute première responsabilité, elle est envers ton Créateur. Et là, vous allez me dire, oui, mais si je mets Dieu en premier, je vais mettre de côté mes enfants, je vais mettre de côté ma femme, ma famille, mes parents qui ont besoin de moi. Soyons réalistes. Ta femme, tes enfants, tes parents, les gens qui sont autour de toi, ils sont tous dans le cœur de Dieu. Dieu les a tous à cœur. Donc, nécessairement, Dieu veut leur bien aussi. Donc, Dieu ne va pas te demander de laisser pour compte tes responsabilités familiales. Il va simplement guider tes pas, mais des pas dans lesquels lui a la première position. Je vous ai déjà expliqué comme quoi, à un moment donné, c'était la mode de la priorisation des activités. Chacun allait prendre un cours ou donner un cours sur la gestion du temps et la gestion des priorités. Et ça m'embêtait que on me donne tout le temps cette recette. C'est d'abord Dieu, après ça toi, après ça ta femme, après ça tes enfants, après ceci, après cela. Puis finalement, il pouvait y avoir des activités ailleurs ou quoi que ce soit. Mais c'était tout le temps à peu près le même pattern qui s'exerçait. Et j'avais un ami qui avait invité quelqu'un en gestion du temps, un pasteur aussi, qui allait faire une conférence. Et j'y suis allé à contre-cœur simplement pour faire acte de présence puis encourager l'ami qui avait organisé cette conférence. Mais pour une fois, le conférencier a dit quelque chose que j'ai trouvé merveilleux et tout à fait logique. Il disait, vous savez, la priorité reste et demeure Dieu. Donc, dans tout ce que je fais, dans toutes les journées qui me sont données, la priorité numéro un reste Dieu. Donc, de passer du temps avec Dieu, de passer du temps à chercher la face de Dieu. Et lui nous disait, si effectivement Dieu est la première priorité, il te dira par la suite quelles sont les autres priorités de ta journée. Et parfois, la priorité numéro 2 de la journée, ça va être ton épouse. Mais parfois, ça va être ta fille. Et parfois, Dieu va te dire, non, la priorité numéro 2 après moi, aujourd'hui, c'est toi. Et parfois, il va dire, non, la priorité numéro 2 aujourd'hui, c'est ton voisin. Donc, de mettre Dieu en première place, fait en sorte que lui, par la suite, peut guider le restant de ta journée afin que ton objectif, ta destination, reste toujours intacte, destination étant Christ Jésus, notre Seigneur. C'est lui que nous devons toujours garder en priorité. Et par la suite, à travers nous, il va bénir les autres priorités de notre vie. La deuxième chose avec laquelle on s'égare, c'est la route. On peut avoir le bon objectif, mais on peut emprunter la mauvaise route. Parfois, on nous dit toutes les routes mènent ou tous les chemins mènent à Rome. C'est pas vrai que tous les chemins mènent à Rome, tout comme c'est pas vrai que tous les chemins mènent à Jésus. Parfois, tu peux avoir un bon objectif, mais le chemin que tu empruntes n'est pas celui que Dieu voulait pour toi. Et ce faisant, tu t'égares. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelque temps par rapport au divorce. Je disais, regardez, la Bible dit qu'on peut divorcer. La Bible permet qu'on puisse divorcer. Tout le monde a le droit de divorcer. Mais par la suite, c'est pas sûr que tu aies le droit de te remarier d'une part. C'est vrai que tu pourrais dire, regarde pasteur, mon mari a été infidèle ou mon épouse a été infidèle, donc oui, j'ai le droit de divorcer. Effectivement, bibliquement parlant, tu as le droit. Mais ce n'est pas parce que bibliquement parlant, tu as le droit que c'est nécessairement le chemin que Dieu veut que tu empruntes. Peut-être que dans ton cas particulier et dans le cas de ton conjoint ou de ta conjointe, Dieu veut une restauration. Dieu veut que vous expérimentiez la grâce. Dieu veut que vous expérimentiez le pardon mutuel et la restauration. Donc, ce n'est pas parce que le divorce est autorisé, que ce chemin est autorisé légalement, bibliquement, que nécessairement c'est le chemin que Dieu veut que tu empruntes. Alors, voilà pourquoi il est important de connaître la destination où on doit aller, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, mais de s'assurer aussi que la route que nous suivons est vraiment celle où il nous guide pas à pas, instant après instant. Quand on parle de route dans laquelle on s'égare, après la destination, après le chemin que l'on peut emprunter, on va parler aussi de la conduite et du comportement et du mode de vie. Lorsqu'on parlait effectivement de Hodos, il y avait une pensée littérale qui était une route, un chemin, un trajet, mais de façon métaphorique dans la pensée Hodos, on avait aussi la conduite, le mode de vie, le mode de pensée. Donc, quel est mon mode de vie? Est-ce que mon mode de vie est celui que Dieu veut? Certains vont dire Jésus allait les lieux qui n'étaient pas fréquentés par les pharisiens, par les sadducéens et par les religieux. Et Jésus disait qu'il faisait cela parce que les malades s'y trouvaient et qu'il était venu pour les malades et non pas pour les bien portants. Alors certains ont pris ça et ont sorti des excuses pour se tenir dans des bars, pour se tenir dans des endroits qui assurément n'élèvent pas le nom de Jésus. Il y a combien d'histoires et combien d'histoires d'hommes ou de femmes qui se sont mis à travailler soi-disant pour Dieu dans des endroits particuliers, dans des endroits de prostitution, dans des endroits de débauche ou autres, en disant « mais le Seigneur m'a appelé pour aller évangéliser là-bas ». Ils ont fini par tomber dans cette crevasse qui était devant eux. Donc, il est important de savoir que mon mode de vie, mon comportement, ma conduite soit aussi approuvée de Dieu. Je parlais avec un jeune homme cette semaine qui me disait que maintenant, dans les réunions de famille, même lorsqu'on lui propose de l'alcool, il refuse de prendre cet alcool. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que le regard qu'on va porter sur lui et que le laxisme dont il pourrait faire preuve serait dangereux. Le regard qu'on va porter sur lui, c'est que si tu fais telle chose, es-tu vraiment chrétien? Donc, ne renforcis pas son témoignage. Et d'autre part, ayant connu un certain passé, un certain vécu, il ne veut pas se remettre dans des situations particulières au risque de tomber et au risque de chuter de nouveau et au risque que son mode de vie passé, son mode de vie pécheur, au risque que sa tâche par le vice et sa tâche par le crime ne soient réapposées sur sa vie. Donc, le comportement est aussi un endroit où on s'égare. Le mode de vie est aussi un endroit où on s'égare. Alors, lorsque le Seigneur regarde ton mode de vie, lorsque le Seigneur regarde ton comportement de tous les jours, peut-il dire qu'effectivement, tu es dans un mode de vie qu'il approuve? Es-tu sûr que la parole de Dieu approuve le mode de vie que tu mènes? Si ce n'est pas le cas, tu es effectivement en danger. De surcroît au mode de vie, de façon toujours métaphorique, quand on parlait de Hodos, on parlait aussi du mode de pensée. Qu'est-ce qui gère tes pensées? Est-ce que tes pensées, c'est la logique humaine qui les gère? Ton système de valeurs, est-ce que c'est la pensée humaine, la logique humaine qui le gère, ou c'est la parole de Dieu? Et soyons clairs, très souvent, l'humanité est maintenant rendue dans un endroit où elle est permissive par rapport à certaines situations, à certaines pratiques, à certains modes de vie, que la parole de Dieu fait la récrimination. Dieu dit non, ceci, ce n'est pas bon, mais les gens disent c'est absurde que la Bible dise que c'est pas bon, c'est normal de faire telle chose, de faire ceci ou de faire cela. Alors, où tu bases ton mode de ton système de valeurs, où bases-tu ton mode de pensée? Sur la logique humaine, sur la pensée humaine ou sur la parole de Dieu? Et enfin, lorsqu'on parlait de Hodos, on parlait aussi des sentiments. Et combien d'entre nous, on s'est fourvoyé régulièrement par nos sentiments. J'ai le feeling que, je sentais que, quelqu'un un jour a dit que les sentiments sont des sens qui mentent. C'est juste une illustration, mais jusqu'à un certain point, effectivement, je ne peux pas me fier à mes sentiments. Je dois me fier à ce que Dieu me dit, à ce que Dieu pense, à ce que Dieu déclare et non pas à mon feeling. Avec mon feeling, je vais dire Jésus est ici, Jésus n'est pas là-bas et je peux me gourer, me tromper totalement. Avec mes feelings, je vais dire, ah, je sens que Dieu est d'accord, mais c'est juste que j'ai envie que Dieu soit d'accord et que j'aime la chose que je m'apprête à faire. Voilà des endroits où on s'égare. Quand notre objectif n'est plus le bon, n'est plus Jésus. Quand le chemin que j'emprunte n'est pas celui que le Seigneur avait pour moi. Lorsque ma conduite, mon comportement ou mon mode de vie ne peut pas être approuvé clairement par Dieu, quand mon mode de pensée n'est pas basé sur la parole de Dieu, mais sur la sagesse humaine, et lorsque je base ma conduite et ma destination sur mes sentiments. Plusieurs servent Dieu puis ils se disent « Ah, mais quand on sert Dieu, ça doit être agréable. » Mais la vallée de l'ombre de la mort, c'est jamais agréable. Certains disent, mais quand tu sers Dieu, ça ne doit pas être pénible. Ben, la croix de Jésus, elle était pénible. Et Jésus va dire que celui qui veut le suivre se charge de sa croix. Donc, il y a un côté par moment de notre conduite qui effectivement peut être pénible ou de notre marche qui peut être effectivement pénible. Lorsque je suis en guerre et que j'ai un ennemi qui m'affronte directement, ben c'est jamais agréable. Et nous sommes en guerre. Nous sommes des soldats dans le royaume de Dieu qui sont en état de service et qui sont en état d'alerte et qui sont en guerre. Donc oui, ça se pourrait que certaines journées soient plus difficiles que d'autres. Et voilà pourquoi je ne peux pas me fier simplement aux sentiments. C'est pas parce que c'est difficile que c'est contre la volonté de Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est agréable que c'est nécessairement la volonté de Dieu. Je ne peux pas me fier sur ces sens qui mentent. Je dois me fier sur ce que Dieu dit. Alors soyons clairs ce matin. Si tu t'es éloigné de Dieu, tu as besoin de salut. La Bible dit clairement que si tu t'es éloigné, ta condition est pire qu'autrefois. Et que tu es un pécheur. Alors tu as besoin d'un sauveur. Mais parce que tu t'es éloigné, tu sais exactement qui est le sauveur. Tu sais exactement qui est le Seigneur. Et tu sais vers qui tu dois te tourner. Ce matin, on est là pour prier pour toi. On est là pour t'encourager à revenir dans les voies de Dieu. Mais assurément, tu connais qui est le sauveur et qui est le Messie pour ta vie et pour la vie de toute l'humanité. Alors je prie que tu reviennes à Dieu. Peut-être que ce matin, tu es une maman, tu es un papa, tu es un frère, une sœur, un ami, et tu as quelqu'un près de toi qui a connu le Seigneur et qui s'en est éloigné. C'est dur à entendre, mais celui qui s'est éloigné est effectivement un pécheur. Et il a besoin d'un sauveur. Et il a besoin que tu l'approches avec autant d'ardeur, avec autant de miséricorde, avec autant de dévouement que tu aborderais monsieur et madame tout le monde à l'extérieur parce que tu sais qu'ils se destinent à une éternité sans Christ. Alors oui, si ton fils s'est éloigné, son statut c'est qu'il est un pécheur actuellement et qu'il a besoin d'un sauveur. Alors prie pour lui, non pas comme quelqu'un qui est moitié chrétien, moitié sauvé, semi-racheté. Non. Aujourd'hui, son statut est un statut de pécheur. Et il a besoin que tu intercèdes pour lui. Et il a besoin que tu lui ramènes à la pensée la vraie vérité qu'il a autrefois reconnue et connue. Alors ce matin, ce n'est pas pour vous décourager qu'on vous parle. C'est pour vous encourager à faire votre travail. Ne lâchez pas de parler de Christ à ceux qui sont autour de vous et qui pourraient s'être éloignés parce qu'ils en ont terriblement besoin et parce que le risque qu'ils courent actuellement loin de Jésus, c'est une éternité sans Christ. Et peut-être que c'est un mot qui sortira de ta bouche qu'ils ont besoin d'entendre. Alors prions. Seigneur, nous prions tout d'abord pour nous-mêmes, afin, Seigneur, de veiller sur notre chemin, Seigneur, nous voulons que tu aies la première place dans nos vies. Que tu sois, Seigneur, l'endroit où nos yeux sont fixés. Tu es notre objectif, tu es notre destination. Tu es notre première parmi toutes nos priorités. Mais Seigneur, nous prions que même le chemin que nous empruntons soit celui que tu veux pour nous. Seigneur, plein de voies s'ouvrent devant nous. Que nous sachions reconnaître ta voix, que nous sachions reconnaître ta lumière, que nous sachions reconnaître le chemin dans lequel tu veux que nous avancions. Seigneur, je veux que nos modes de vie, notre comportement puissent être approuvés par toi. Seigneur, que tu apposes ton sceau d'approbation sur le mode de vie que je mène. Et si ce mode de vie, Seigneur, ne te glorifie pas, ben j'ai besoin de changer les choses et de me mettre en règle avec toi. Seigneur, je veux que mes pensées ne soient pas posées sur un raisonnement humain ou fondées sur un raisonnement humain, mais je veux que mes valeurs, mes pensées, mes sentiments soient fondés sur ta parole, parce que ta parole est la seule et l'unique vérité. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ces bien-aimés qui t'ont connu et qui se sont éloignés. Tu sais, Seigneur, combien ils nous tiennent et elles nous tiennent à cœur. Tu sais, Seigneur, combien on a ce désir qu'ils reviennent à toi. Et on comprend ce matin, Seigneur, le danger dans lequel ils sont. Seigneur, nous ne nous cachons pas la vérité. Si tu revenais aujourd'hui, ils seraient perdus parce que pécheurs. Alors Seigneur, donne-nous l'hardiesse, donne-nous la ténacité, donne-nous le dévouement, Seigneur, pour continuer à être des porte-voix de ton message auprès d'eux. Seigneur, c'est peut-être un fils, c'est peut-être une fille, c'est peut-être un neveu, une nièce, un cousin, une cousine, un père, une mère, un collègue de travail, un ami, une connaissance, un voisin qui t'a connu et qui s'est éloigné. Nous ne voulons pas être paresseux et nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Ta parole nous dit, Seigneur, que celui qui t'a connu et qui s'en est éloigné est un pécheur. Son éternité, Seigneur, est en jeu. Alors, Seigneur, je veux que cette pensée m'habite. Je veux que cette réalité, cette vérité m'habite pour que je fasse pleinement mon travail. Je prie qu'il en soit de même pour ma sœur et mon frère. Que tu nous conscientises. Et que cette réalité fasse en sorte que nous ne pouvons pas nous taire. Merci, Seigneur, d'entendre notre prière et d'intervenir. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, laissez-moi saluer quelques personnes. Je remonte un peu sur mon cellulaire. Alors, on a la sœur Samet qui s'est joint à nous. Bonjour. On a la sœur Susanna. Dieu vous bénisse. On a la sœur Teresa, la sœur Dora. On a Raquel de la Floride, Dieu te bénisse. On a Chanel, on a Diana, on a Linda, on a Max et Noémie, on a Lucie, on a Argelia et on a Chantal et Léo. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis laissez-moi simplement pour ces derniers instants vous rappeler que les inscriptions ont cours actuellement pour l'assemblée de dimanche, pour ceux qui veulent y assister sur place. Donc, c'est toujours en appelant à l'église ou en écrivant à l'adresse du secrétariat. Donc, pour appeler, c'est le 514-273-8295 et pour écrire, c'est secrétariat.eajc@commercial.gmail.com. Les informations se trouvent sur Facebook, sur la page web de l'église. Vous pouvez donc nous appeler ou nous écrire. C'est important que vous le fassiez. Les places commencent à diminuer. Donc, laissez-nous votre nom, votre numéro de téléphone, votre courriel, l'un ou l'autre actif pour qu'on puisse vraiment vous appeler. Et puis aussi le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. La seule restriction, vous ne devez pas présenter de signes grippaux. Et puis, vous devez être âgé de plus de 12 ans, vous et bien entendu les personnes qui vous accompagnent. Donc, sur ce, je vous laisse pour ce matin. On se retrouve demain pour notre dernière bénédiction matinale. Et puis, on se retrouve aussi demain soir pour notre temps de prière et d'intercession. Donc, n'hésitez pas à appeler pour vous inscrire. Il y a encore de la place, mais comme je vous dis, les places commencent à diminuer. Donc, appelez, écrivez et inscrivez-vous pour l'Assemblée de dimanche. Sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et on se retrouve demain matin. Bye bye tout le monde!